Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. On pourra reparler des rêves et des cauchemars pendant la table ronde. Ce matin, nous sommes heureux d'accueillir le père Denis Bijoux-Duval, prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Donc on est heureux à double titre. Et du diocèse de Dijon. Voilà. Mais vous nous arrivez de Rome, où vous êtes le directeur de l'Institut Redemptor Hominis à l'Université du Latran. Vous enseignez depuis 1998, je crois. Voilà. Votre nom est sans doute connu de plusieurs d'entre nous par votre ouvrage « Le psychique et le spirituel », qui est un livre connu qui a aidé beaucoup sûrement pour la réflexion pastorale sur l'accompagnement. Vous avez publié aussi un livre sur l'effusion de l'Esprit-Saint et tout dernièrement un livre en 2012 qui est le fruit de votre réflexion et de votre enseignement dans le domaine de la nouvelle évangélisation. Faut-il encore se soucier du salut des âmes, l'urgence de la nouvelle évangélisation ? Et dans ce cadre-là de vos activités, vous êtes aussi, je crois, consulteur au Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Voilà. Et nous sommes impatients de vous écouter, nous tracer l'esquisse ou les esquisses, je ne sais pas si le pluriel du programme est une erreur ou voulue, les esquisses d'un humanisme chrétien pour le temps présent. Merci beaucoup d'être venu.
Voilà. Alors, comme vous le constatez, justement, le titre est très prudent, c'est-à-dire, même s'il s'agit de la conférence conclusive de cette rencontre, il ne s'agit pas ici de répondre à toutes les questions qui ont émergé, mais d'essayer de comprendre dans quelle direction est appelée à s'orienter la réflexion chrétienne sur l'homme de nos jours. Donc esquisse, et même au pluriel, parce que les points d'attention que nous ferons émerger restent encore à travailler, à approfondir et à synthétiser. Alors le titre comprend aussi l'expression « pour le temps présent ». Alors certains se demanderont peut-être ce que ça peut bien faire là, cette expression « pour le temps présent ». Est-ce que l'anthropologie chrétienne n'est pas une fois pour toutes et pour toujours depuis la révélation du Christ ? Et de ce point de vue, il faut justement réfléchir sur le processus d'approfondissement du mystère de l'homme au fil des siècles. Ça a été évoqué dès la première conférence. Et je vous renverrai là-dessus à la constitution Gaudium et Spes, et en particulier à son invitation à scruter les signes des temps, parce que la parole chrétienne est appelée à raisonner en fonction, comme le dit la première phrase du document, en fonction des joies, des espoirs, des tristesses et des angoisses des hommes de ce temps. Alors cela signifie que, bien sûr, le Christ s'est révélé une fois pour toutes, et il nous a révélé à nous-mêmes une fois pour toutes, pourrait-on dire, de ce point de vue-là, et en même temps, au fil de l'histoire, au fil des nouveaux problèmes qui se posent, eh bien, de nouveaux défis sont à affronter, et on a à découvrir que cette même révélation qui est advenue une fois pour toutes, on n'aura jamais fini d'y découvrir de nouveaux filons. Chaque nouveau problème fait découvrir de nouveaux aspects de la révélation du Christ et de l'homme. Et comme le dit Jésus, nous sommes donc invités à tirer de ce trésor du neuf et de l'ancien. L'ancien, c'est le donné de la foi que nous avons reçu. Et le neuf, ce sont les nouveaux questionnements auxquels l'Évangile peut apporter une lumière nouvelle. Alors, Jean-Paul II, aussi dans sa toute première encyclique, Redemptor Hominis, invitait toute l'Église à réfléchir sur ce mystère de l'homme. Et en particulier, il insistait sur la nécessité de parler à l'homme réel, concret et historique. Alors cette encyclique, vous savez que c'était la première de son pontificat. Donc elle avait un caractère programmatique et en même temps elle insistait sur ce fait qui a déjà été rappelé lors de cette rencontre que l'homme est la route de l'Église. mais que cette route est tracée par le Christ lui-même et qu'elle passe par le mystère de l'incarnation et de la rédemption. Et nous voici donc appelés à réfléchir à cet homme concret, historique, non pas l'homme abstrait, comme dit Jean-Paul II. Et il veut ici viser sans doute un certain nombre de philosophies et d'idéologies qui ont développé des représentations de l'homme, parfois grandioses par certains aspects, mais souvent irréelles et dangereuses par d'autres aspects. Et quand ces idéologies sont devenues projets politiques, elles ont parfois débouché sur l'horreur, parce que précisément, au nom d'un homme abstrait et idéal, elles blessaient l'homme concret et historique. C'est ainsi qu'on a pu couper la tête à des millions d'hommes pour qu'ils soient plus libres. C'est aussi en vue d'une société sans classe abstraite, où devait régner une justice parfaite, qu'on a enfermé des millions d'hommes dans des enfers psychiatriques ou concentrationnaires. Et il y a eu là une revendication de toute puissance de la part de l'homme qui a cherché en quelque sorte à se recréer lui-même, à se donner à lui-même les clés de son histoire, quitte à se recréer par la violence et dans le sang. Alors l'anthropologie chrétienne, Dieu merci, n'a pas produit de telles horreurs, mais elle n'a pas toujours été exempte de tout reproche du point de vue du risque d'abstraction dont parlait Saint Jean-Paul II. Pour elle, se faire peu attentive à l'homme concret et historique, c'est cesser de se laisser interroger par les signes des temps dont nous parle Gaudium et Spes, parce qu'on ne perçoit plus la tradition que comme une sorte de dépôt à mettre au congélateur et à maintenir tel quel, au lieu d'y voir ce grand processus d'approfondissement continuel du mystère de Dieu et du mystère de l'homme. Il a pu donc arriver que la révélation soit quelque peu réduite à une idéologie, fût-elle catholique. Donc être catholique, c'était avoir de bonnes idées, penser bien, mais ça n'était pas forcément être dans cette relation de cheminement concret avec Dieu dans le Christ et d'approfondissement de ce mystère de l'amour de Dieu dans le Christ. Donc il y a derrière cela un problème d'inculturation. Quand on parle d'inculturation de la foi, on l'entend souvent des pays lointains. On se dit qu'il faudrait que la foi s'inculture davantage dans les cultures africaines, dans les cultures asiatiques. Mais il se pose aujourd'hui un vaste problème d'inculturation de la foi dans notre culture occidentale. Alors, l'inculturation repose en fait sur le mystère de l'incarnation. Le Fils de Dieu s'est fait vraiment homme, il a habité notre chair, notre monde, et de même, la foi est appelée à s'incarner dans les cultures, à intégrer les multiples modes d'expression des hommes. Et dans cette heureuse rencontre, eh bien, les cultures peuvent s'en retrouver renouvelées, dilatées, purifiées, et la foi y trouve justement l'occasion de déployer encore davantage ses virtualités. Saint Justin disait que, il parlait de la philosophie grecque, donc un élément important de la culture de son époque, puisque c'est un philosophe romain du IIIe siècle, eh bien Saint Justin parlait des semina verbi, des semences du verbe présentes dans la philosophie grecque. Et de même, c'est donc la constitution Gaudium et Spes, quand elle nous parle de ses joies, de ses angoisses, de ses tristesses de l'homme d'aujourd'hui, c'est Gaudium et Spes qui nous parle de ces mêmes semina verbi. Comment est-ce qu'en quelque sorte le Seigneur nous précède déjà à travers des aspirations positives présentes dans ce monde? Alors, c'est un discernement qui n'est pas simple. Scruter les signes des temps, c'est apprendre à voir comment Dieu nous parle à travers les circonstances, à travers les événements. Mais ces signes des temps sont souvent mélangés avec d'autres signes ou avec d'autres semences. Si nous nous souvenons de la parabole du bon grain et de l'ivraie, nous savons que dans le champ du monde, il y a les semences du verbe, les semina verbi, en vue de la croissance du bon grain, mais il y a aussi les semina diaboli, les structures de péché présentes dans les cultures. Et cela signifie que l'inculturation de la foi dans le monde d'aujourd'hui est en même temps un processus très beau, puisqu'il est appelé à conduire à l'accomplissement des aspirations profondes de l'homme de ce temps dans la rencontre avec le Christ, mais c'est en même temps un processus dramatique parce que sont présentes aussi d'autres influences et cela peut vous expliquer pourquoi l'histoire de l'évangélisation du monde est aussi inséparablement l'histoire du martyr. La constitution Gaudium et Spes avait clairement adopté cette perspective de l'incarnation rédemptrice, y compris au plan des cultures. Alors, elle a souvent été l'objet d'interprétations un peu iréniques qui idéalisaient ce monde jusqu'à tenter de lui soumettre l'Évangile. Mais je vous invite justement à revenir au texte lui-même. Ceux qui n'ont pas encore lu ce grand texte, dépêchez-vous de le faire. Pour l'instant, c'est un péché véniel, mais si vous tardez trop, ça deviendra un péché mortel. Et quand on parle d'humanisme chrétien, c'est vraiment, dans la tradition du Concile Vatican II, le premier document à lire. Alors, approfondissons donc et essayons de réfléchir à ce qui constitue à la fois les pierres d'attente présentes dans ce monde tel qu'il est aujourd'hui, mais aussi les difficultés et les éléments de crise. Alors vous savez que dès la première conférence, il a été question de la postmodernité comme d'une nouvelle période dans laquelle nous sommes en train de rentrer. Alors donc certains parlent de postmodernité, d'autres de modernité tardive, donc en insistant davantage sur le fait qu'on est en train d'arriver à la fin d'un processus, sans doute qu'on l'appelait celui de la modernité. D'autres encore l'hypermodernité, comme si la modernité était portée en quelque sorte à un état exacerbé. En Italie, on aime bien l'expression la modernité liquide, c'est-à-dire. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie un monde dans lequel il n'y a plus de repères et de structures forts et les choses vous glissent un peu entre les doigts comme un liquide. Mais cela pose évidemment la question, quelle est donc cette modernité dont on pense être en train de voir la fin, et quelle est donc cette post-modernité dans laquelle nous serions en train de rentrer. Alors, je vais essayer de vous le décrire à travers une école de pensée assez significative, qui a même été signalée explicitement dans l'encyclique Fides et Ratio, à nouveau du pape Saint Jean-Paul II. C'est une école qu'en Italie on appelle pensiero debole, la pensée faible. La pensée faible. Donc une pensée qui renonce à toute prétention de vérité forte et universelle. Et donc qui se replie sur des intuitions ou des pensées au pluriel, plus ou moins cohérentes et sans véritable prétention de s'affirmer comme des vérités. En réalité, ce type de pensée a à voir avec ce qu'on appelle aussi aujourd'hui le relativisme. Dans le relativisme, on est prêt éventuellement à dire un certain nombre de choses, mais on ne les dit que comme un point de vue. Alors un point de vue culturel, un point de vue religieux, mais non plus comme une vérité qui puisse concerner tout l'homme et tout homme. Et derrière ce relativisme, il y a non seulement une question qui touche à la pensée, donc cette fameuse pensée faible, Alors pour ceux que ça intéresse, un des grands représentants en Italie de cette pensée faible s'appelle, est un philosophe qui s'appelle Gianni Vattimo. Mais derrière la pensée faible, en fait, se cache ce qu'on pourrait appeler un sujet faible, c'est-à-dire la difficulté croissante pour l'homme de se comprendre comme véritable sujet et protagoniste de sa propre histoire. Et précisément, c'est là qu'il y a un basculement, parce que on peut dire que toute la tradition de la modernité est une tradition du sujet fort. L'homme qui découvre tout le potentiel de sa raison, de sa liberté, de ses capacités de réalisation dans ce monde, eh bien, cet homme s'affirme comme un homme fort. Alors, d'où nous vient cet homme fort, si j'ose dire, ce sujet fort? En réalité, il nous vient d'une racine chrétienne. Ça n'est jamais dans la culture et dans l'histoire que le développement du sens de la dignité de la personne humaine, telle qu'elle nous a été affirmée à travers la théologie de l'homme, image de Dieu, et puis à travers l'affirmation aussi du fait que cet homme a une si grande valeur que le Seigneur a donné sa vie pour sa rédemption. Et donc, quel est l'homme pour que tu penses à lui, hein, le fils d'un homme que tu en prennes souci, comme le dit le psaume, hein, il y a cette grandeur de l'homme liée au fait que Dieu en est lui-même le Créateur, qu'il a imprimé en lui son image et qu'il, en quelque sorte, qu'il l'accompagne pour prendre soin de lui et le porter à son accomplissement. Alors c'est cette affirmation chrétienne qui a débouché sur ce sens, sur cette redécouverte par l'homme des capacités spécifiques dont il était porteur, en particulier d'intelligence, de volonté, et puis ensuite de réalisation technique, capacité de transformer ce monde et éventuellement d'agir sur lui-même aussi. Mais ce qui se passe en quelque sorte dans la modernité, c'est que cette découverte de la grandeur de l'homme va, par un processus qui peut paraître un peu mystérieux au départ, va être opposée progressivement à la foi chrétienne. C'est-à-dire, il ne va plus être, cette affirmation de la grandeur de l'homme ne va plus être reconnue comme un héritage venu de la foi chrétienne et de l'action évangélisatrice de l'Église, mais va être au contraire opposée à cet héritage chrétien et à l'Église. Ce sont tous les processus qui ont abouti, vous voyez par exemple, à ces fameux débats d'affirmation de la raison contre la foi, par exemple, ou d'affirmation de la liberté de l'homme contre les contraintes qui viendraient de la foi chrétienne et de l'Église. À l'origine, les droits de l'homme, la notion de droit de l'homme, qui est une notion typiquement moderne, eh bien, elle nous vient du sens de la dignité de la personne humaine qui est elle-même un aspect fondamental de l'Évangile. Et en même temps, à l'origine, les droits de l'homme ont été affirmés d'une façon violente contre la foi chrétienne et contre l'Église, au point que l'Église l'a si mal pris qu'elle a mis 2 siècles à accepter elle-même d'utiliser l'expression « droit de l'homme » par la suite. Parce qu'elle en avait tellement souffert au départ qu'elle a eu du mal à s'en remettre. Et vous voyez, dans la modernité classique, eh bien, il y avait une affirmation des droits de l'homme, mais souvent avec une intention en grande partie anticléricale. Donc une sorte de processus, si vous voulez, de « je t'aime, moi non plus », qu'on retrouve dans tous les films sur Don Camillo et Pépone. Donc, où en quelque sorte, Don Camillo et Pépone sont les meilleurs ennemis du monde. Hein? Je t'aime moi non plus. C'est-à-dire, à la fois, Pépone n'existerait pas sans Don Camillo. Sous un certain angle aussi, Don Camillo, dans son côté un peu batailleur, n'existerait pas sans Pépone. Et on peut dire que l'atmosphère de la France jusque dans les années 50-60 était très marquée par ce genre d'opposition, où il y avait à la fois un héritage commun et à la fois un combat très dur en fonction de l'attitude qu'on pouvait avoir à l'égard de cet héritage. Une bonne parabole de ces processus un peu paradoxaux, c'est le Panthéon à Paris. Si vous allez visiter cette église, c'est un vrai poème, si j'ose dire. Alors, le résultat est relativement moche, pour tout dire, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à la base, c'est une église à la gloire de la France chrétienne, avec toutes sortes de fresques concernant les grands saints de l'histoire de France, de Sainte-Geneviève à Sainte-Jeanne d'Arc, en passant par Saint-Louis et un certain nombre d'autres. Et puis, cette église a été confisquée par la laïcité, si j'ose dire, ou par le laïcisme, pour devenir le temple des pères fondateurs de la laïcité anticléricale. Et donc, nous avons les tombeaux de tous ces pères fondateurs qui sont un petit peu comme des verrues dans ce qui était à l'origine une église. C'est pour ça que le résultat n'est pas très heureux, parce que ça manque totalement d'unité. Mais on voit bien par là ce processus qui fait que la République, dans son caractère française, dans sa tradition laïcarde et anticléricale, cherche à la fois à récupérer et à contredire l'héritage chrétien. C'est pour cela que le théologien Romano Guardini, qui est de nom italien, mais qui en fait était en Allemagne, parlait de la modernité comme d'un processus déloyal. En fait, il accusait la modernité d'avoir, si j'ose dire, craché dans la soupe, c'est-à-dire profiter de l'héritage chrétien, mais en le retournant contre l'héritage chrétien. Et c'est bien ce qui se passe avec justement ce sens de l'homme moderne, sujet fort, sujet de raison et de liberté, hérité du christianisme, mais retourné contre le christianisme. C'est au fond un processus qu'on pourrait assimiler à un processus d'adolescence. Il a été évoqué hier la position kantienne qui disait que finalement il y a eu une époque de l'enfance qui serait représentée par le Moyen-Âge, et puis avec les Lumières serait arrivé l'âge adulte. Alors peut-être que Kant, de ce point de vue-là, était un peu pressé et qu'il avait oublié qu'avant l'âge adulte, il y a l'adolescence, et que l'adolescence est souvent justement caractérisée par un processus semblable de « je t'aime, moi non plus » à l'égard de ceux dont on vient, et avec cette tentation de s'opposer à ceux de qui on reçoit. Alors le désir qui, à l'origine de ce processus, c'est le désir de s'affirmer, c'est le désir d'être soi. Et dans l'adolescence, cela s'accompagne souvent par cette tentation de se poser en s'opposant. Et il y a sans doute eu quelque chose de cela dans la modernité telle qu'elle a été vécue depuis donc ses origines que l'on situe donc à la fin du Moyen-Âge. Il semblerait que l'usage de l'adjectif « moderne » dans le sens qu'on lui reconnaît aujourd'hui, remonterait au XIVe siècle. Donc la modernité plonge ses racines relativement loin. Et donc il y aurait augmenté ce processus dans lequel l'homme, sur la base de l'héritage chrétien, confisque l'héritage pour s'opposer à celui dont cet héritage provient. On peut aussi comparer cela à ce qui se passe dans la parabole du fils prodigue. Vous voyez, le fils prodigue prend l'héritage et va le dépenser pour son propre compte au lieu de le vivre dans la communion avec le père dont il l'a reçu. Alors ça ne veut pas dire que la modernité se résume à cela, parce que c'est de fait une époque de grande affirmation des capacités de l'homme, mais il y a aussi la version chrétienne de cette affirmation. Donc l'humanisme chrétien s'est développé dans ces mêmes époques, et cela dès le départ. On a de belles figures de saints comme Saint François de Sales, Saint Thomas More, Beaucoup de clercs ou de laïcs ont été des scientifiques, des inventeurs, de grands chrétiens. Pensons à Blaise Pascal, au chanoine Lemaître, en passant par Louis Pasteur, grand catholique devant l'Éternel, le chanoine Mendel, découvreur des toutes premières lois de la génétique. Donc l'Église n'a pas boudé cette capacité de l'homme de grandir. Mais il faut observer qu'au fil du temps, les contrastes se sont approfondis et radicalisés et ont pris un caractère de plus en plus violent au fil du XXe siècle, puisque ce qui est combat culturel au XIVe, XVe, XVIe siècle devient fleuve de sang à travers les grandes idéologies du XXe siècle. Et l'homme, sujet fort dans les idéologies, prétend se reprogrammer totalement lui-même à partir de ce qu'il croit être la pure vérité de la raison et à partir de ce qu'il pense être ses capacités d'agir, de transformer et d'accomplir l'histoire par lui-même. Alors, peut-être d'ailleurs qu'un certain nombre de milieux chrétiens n'ont pas été étrangers à cette radicalisation de la modernité. On peut penser dans l'Église catholique aux tentations jansénistes, par exemple, où, voyant finalement ce que la pensée moderne faisait de l'homme en l'exaltant, on réagit de façon radicale, au contraire en insistant sur la négativité, sur le fait que l'homme est un pécheur, qu'il ne peut rien. Mais du coup, cette atmosphère janséniste, en quelque sorte, alimente l'image négative de l'Église du monde anticlérical. Et donc, en croyant apporter une réponse à la modernité anticléricale, en fait, elle ne fait que l'alimenter. Hein, donc, vous voyez, ce processus de « je t'aime, moi non plus » a fonctionné à travers cette vision très pessimiste de la foi qui a existé dans beaucoup de milieux chrétiens jusqu'au Concile Vatican II et peut-être même au-delà. Alors, en fait, c'est ce grand processus de la modernité, de l'affirmation de l'homme sujet fort et protagoniste autonome de sa propre histoire qui rentre en crise de nos jours. Pourquoi cela ? Parce que quand la modernité pousse jusqu'au bout sa propre logique qui consiste à détruire l'héritage dont elle a besoin pour être elle-même, eh bien, non seulement éventuellement elle réussit à marginaliser la foi chrétienne dans un certain nombre de pays, dans nos pays, mais elle assèche ses propres sources. Et donc, sa victoire est une victoire à la Pyrrhus, si j'ose dire. Quand on n'a plus l'ennemi en fonction duquel se définir, eh bien, sous un certain angle, on cesse d'être soi-même quand on était dans un pur processus de se poser en s'opposant. Et c'est cette déstabilisation qu'on observe aujourd'hui. On le voit bien, par exemple, à travers le problème de l'enseignement de la morale dans nos écoles laïques. Il y a eu toute une époque où l'enseignement de la morale, j'en ai profité jusqu'en CM2, dans l'école laïque, parce que j'ai fréquenté l'école du diable. l'enseignement de la morale dans l'école laïque, c'était somme toute, en gros, les 10 commandements horizontalisés, c'est-à-dire on cessait de référer les exigences morales à la spécificité de la révélation chrétienne. Mais on continuait finalement d'affirmer ces exigences au nom de la raison et de la liberté humaine. Ce qui n'est d'ailleurs pas totalement faux, puisque dans la vie chrétienne, il y a tout un tas de composantes de la vie chrétienne qu'on peut référer à ce qu'on appelle la morale naturelle, donc des principes du bien et du mal qui nous viennent de notre capacité à réfléchir à cet égard avec notre raison, sur ce qui fait grandir l'homme ou sur ce qui peut le blesser ou le détruire. Donc c'était l'atmosphère jusqu'en mai 68, en gros, où là, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le désir, finalement, que l'homme affirme totalement sa liberté contre tout héritage qui serait reçu de l'extérieur, a été jusqu'à finalement détruire la notion même de morale. Hein, et c'est le fameux slogan 68 art, il est interdit d'interdire. Et c'est à partir de ce moment-là aussi que cesse l'enseignement de la morale dans les écoles laïques. Donc, vous voyez, vous avez un premier temps qu'on pourrait appeler la modernité classique, dans lequel on affirme une morale forte, et qui d'ailleurs sert souvent encore de lien commun aux cléricaux et aux anticléricaux, parce que, au fond, l'héritage implicite, l'horizon implicite commun, c'est toujours l'héritage chrétien. Et c'est en même temps une certaine capacité de la raison à réfléchir sur le bien de l'homme. Donc, dans la modernité classique, il y a ce « je t'aime moi non plus » entre les 10 commandements et la morale laïque. Mais quand on passe à la radicalisation du processus au nom d'une liberté qui se veut absolue et sans contrainte, ce qui est le terme logique d'une modernité qui s'affirme jusqu'au bout, dans cette perspective-là, eh bien, on arrive à passer de la morale laïque à la destruction de tout principe moral. Et donc, on peut dire, sous un certain angle, que mai 68 est l'une des étapes du grand basculement de la modernité vers la postmodernité. On peut observer ce processus sur beaucoup de terrains. Mais vous voyez, par exemple, un problème comme celui de l'avortement. Jusque dans les années 60-70, la plupart des Français étaient contre l'avortement. Ceux qui étaient catholiques, pour des raisons qui rejoignaient aussi la foi, l'affirmation du Christ, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et puis beaucoup de personnes qui n'étaient pas catholiques, certains même qui étaient athées ou francs-maçons, étaient contre l'avortement parce qu'ils estimaient que c'était une atteinte au droit à la vie de tout être humain. Mais il y a un basculement qui se passe où, au nom d'une liberté subjective absolue, on ne va plus supporter ce type d'interdit. Et donc on va passer à un nouveau style de « droit de l'homme », entre guillemets, non plus fondé sur la reconnaissance rationnelle de ce qu'est l'homme et de ce qui est bien pour lui, mais fondée sur des exigences de revendication purement subjectives, à une liberté pure. Donc l'avortement va se traduire dans des slogans comme « mon corps est à moi », hein, la liberté de disposer de son propre corps, en oubliant qu'il y a peut-être aussi le corps d'un autre qui est en cause. Mais la revendication de liberté subjective prévaut sur toute autre considération et crée un principe finalement de dislocation de la notion même de bien et de mal. Et donc tout cela conduit à passer finalement d'un monde où il y avait en commun d'affirmer un homme fort, militant, capable de transformer l'histoire, à un homme qui de plus en plus va expérimenter la perte des repères et la perte de tout ce qui pourrait justement construire sa liberté. Parce que comme ça nous a été rappelé hier, la liberté humaine se construit aussi à travers la confrontation avec les limites et la capacité d'assumer de façon mûre les limites et les interdits, mais non pas parce que l'interdit nous obligerait à nous coincer, mais parce que l'interdit est comme une instance qui nous construit dans le bien et qui nous permet de bâtir de façon cohérente le bien de l'homme. Et dès lors qu'on perd cette notion même d'interdit, dès lors que la liberté au plan subjectif s'exalte sans limite, eh bien, nous aurons affaire ensuite à un processus qui est un processus de désagrégation de cette cohérence très forte qui était caractéristique de la modernité. Donc vous voyez, c'est la période où les grandes idéologies perdent de leur crédibilité. Hein, c'est un des auteurs du néologisme post-modernité, Lyotard, qui dit que justement la modernité se caractérise par les grands récits, Donc, ce sont les grandes idéologies ou les grands récits d'interprétation de l'histoire et qui permettent à l'homme de se situer dans cette histoire et d'en être le protagoniste, le constructeur. Donc, la modernité est le temps des grands récits et l'entrée en postmodernité, la fin des grands récits. C'est-à-dire que l'homme perd les clés d'une compréhension globale de son existence. Mais cette perte de crédibilité des idéologies, ça n'est pas simplement un processus négatif lié au fait que l'homme ne croit plus en lui-même et en sa propre raison. C'est aussi une réaction de désillusion par rapport aux prétentions outrancières que pouvaient avoir les grandes idéologies. En particulier, donc, le XXe siècle a été bien caractérisé par la violence nazie et par la violence communiste. Et donc il y a eu deux grandes désillusions à cet égard quand on a découvert l'horreur auquel, l'horreur à laquelle pouvait conduire ce genre de perspective. Donc quand l'homme veut s'affirmer trop fort, il finit par s'autodétruire. Mais il n'y a pas qu'à travers les idéologies que cela a été vérifié. Vous voyez, par exemple, dans la modernité classique, on investit beaucoup sur les sciences et les techniques comme lieu d'espérance de la croissance de l'homme, de sa liberté, de son progrès. Et cela se manifeste, par exemple, dans le genre science-fiction, par des œuvres comme Jules Verne, voyez, où les sciences sont vues comme la capacité incroyable qu'a l'homme de déployer des ressources nouvelles qui vont le faire progresser. Et puis, vous avez une désillusion à cet égard, qui est marqué par plusieurs événements symboliques, l'explosion de la bombe atomique en 1945, mais vous avez aussi le problème de la pollution, par exemple. Donc la technique et les sciences peuvent détruire aussi bien qu'elles peuvent construire. Et puis d'autres réalités qui ont suscité des réactions de plus en plus angoissées, donc tout le potentiel de manipulation génétique, toutes les capacités qu'a l'homme éventuellement de se manipuler soi-même. Et ça a été évoqué sous une forme extrême hier à travers l'idéologie post-humaniste ou transhumaniste. Et l'ensemble de ces événements a conduit à la perte de crédibilité des sciences et des techniques comme moyen d'accomplir l'être humain. Et on le voit à travers le passage donc d'un genre science-fiction optimiste, dont Jules Verne est le symbole, à un genre science-fiction pessimiste, à travers des Huxley, Orwell et autres. Et qui nous disent donc que le progrès technoscientifique peut conduire à l'enfer. Donc l'homme sujet faible auquel nous aboutissons, à travers cette perte de crédibilité des capacités humaines, eh bien, il expérimente l'histoire davantage comme un chaos. Et autant l'homme militant des grandes idéologies des années 30 pensait bâtir l'histoire, autant l'homme aujourd'hui ne sait plus très bien comment se représenter le futur et dans quelle histoire il se trouve. Quand on fait des sondages parmi les adolescents sur la couleur dont ils voient le futur, la plupart répondent noir. Ce qui vous donne le niveau d'espérance moyen des nouvelles générations. Ensuite, ce qu'il faut remarquer aussi dans les phénomènes propres au passage de la modernité à la postmodernité, c'est tout ce phénomène qu'on appelle le retour du spirituel. Parce que la modernité, en exaltant les sciences et les techniques, a développé donc une attitude idéologique qu'on appelle le sécularisme, qui consiste à exclure le religieux et le sacré de la culture et de la vie de ce monde. Mais dès lors que les idéologies qui remplaçaient ce sacré s'écroulent et perdent en crédibilité, la répression, si j'ose dire, qu'avait opéré le sécularisme à l'égard de l'expérience religieuse cesse. Et l'homme qui est toujours en recherche et en attente des clés de son existence, eh bien, voit réapparaître explicitement tous les questionnements qui avaient été passés sous silence par la modernité idéologique. Alors, c'est un retour qui a été progressif, hein, puisque on voit déjà à l'aube du XXe siècle des auteurs comme Otto ou Jung ou Eliade, un peu plus tard, s'interroger sur le fait religieux, sur la signification de l'expérience du sacré, etc. Mais petit à petit, cela diffuse aussi dans la culture beaucoup plus, dans une culture beaucoup plus vaste au niveau de la culture commune, quoi, celle qui nous imprègne tous. Hein, la conversion des Beatles à l'hindouisme dans les années 60, le fait que les problèmes de pouvoirs mentaux, de paranormal, commencent à envahir les dialogues entre les lycéens à partir des années 70. Alors, les structures pastorales de l'Église ne s'en sont rendues compte qu'une quinzaine d'années plus tard, hein, où on a commencé à être sensibilisé aux nouvelles sectes, à la nouvelle religiosité, en particulier avec le travail de Jean Vernet, au départ, en France. Mais ça a mis du temps, parce que c'est un travail qui commence dans le cours des années 80, alors que le problème remontait déjà loin. Et puis ensuite, ce sera l'invasion des spiritualités New Age, les modes orientalisantes. Et donc, ce retour du religieux qu'on observe, il se comprend relativement bien parce que les idéologies, les grandes idéologies typiques de la modernité avaient occupé le terrain de manière à se substituer à ces religions. C'était en quelque sorte des grandes religions sécularisées, les idéologies, avec leur liturgie propre sur la place Rouge ou dans les grandes manifestations à Nuremberg sous Hitler. Donc, il y avait un redéploiement du sacré, mais dans une clé purement séculière. Mais la fin donc de ces idéologies, de ces pseudo-religions, voit reparaître la recherche religieuse. Et de nos jours, eh bien, on le constate sous des formes très contrastées, parce que il s'agit aussi bien des intégrismes religieux, musulmans, hindouistes, bouddhistes, juifs, etc., que des séries télévision américaines pleines d'anges, de démons, de vampires, de sorciers, de médiums, ou alors les néo-religions vertes, écolo New Age. Ce qu'on appelle quelquefois les Khmers verts, qui seraient prêts à massacrer la moitié de l'humanité pour préserver les grands équilibres biologiques terrestres. Or, que nous dit ce retour du religieux ? Il nous dit quelque chose de positif, c'est que l'homme est un être religieux et qu'on ne peut pas brider longtemps cette dynamique religieuse qui habite son cœur. Mais elle nous dit aussi que quand cette aspiration religieuse n'est pas évangélisée, elle peut donner dans tout et n'importe quoi. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, de façon assez massive, le retour du religieux se présente comme une sorte d'errance sans repère, où on va chercher des expériences par-ci, des expériences par-là, mais avec sans doute aussi beaucoup d'angoisse et d'interrogation, puisque cette multiplication des expériences ne semble pas apporter de réponse décisive. Or, tout cela serait encore à analyser à travers d'autres phénomènes qui marquent notre entrée en postmodernité, comme en particulier la mondialisation, la rencontre entre les différentes cultures, mais qui peut devenir un chaos aussi des différentes cultures. Je pense que ça fait partie des éléments qui contribuent à alimenter le relativisme et la perspective du sujet faible dont nous parlions, le fait que dès la plus tendre enfance, les enfants soient mis dans une situation culturelle incohérente, avec des messages qui partent dans tous les sens et dans toutes les directions. Vous voyez, un petit enfant des années 50, en gros, il expérimentait sans doute des contrastes idéologiques forts à certains niveaux, quelquefois jusque dans sa propre famille, quand son père était anticlérical et sa mère catholique pratiquante. Mais il y avait un horizon commun sur un certain nombre d'éléments structurants de la vie humaine et morale. Hein, donc tous avaient à peu près la même représentation de la famille, ce qui a permis par exemple en France le vote des lois pour la famille en 1938, hein, les allocations familiales, parce qu'en fait les communistes, les francs-maçons et les catholiques avaient une représentation au plan humain, une représentation très proche de la famille. Et donc un enfant de ces années-là, il grandissait dans une, tout de même dans une certaine cohérence culturelle et morale, parce que ses parents, ses maîtres d'école, les autorités publiques disaient à peu près la même chose. Voyez. Or, de nos jours, on a au contraire affaire à une sorte de chassé-croisée de messages incohérents et divergents, qui font que bien un enfant ou un jeune qui grandit ont bien du mal à s'y retrouver, ont bien du mal à trouver un terrain stable et ferme sur lequel bâtir leur vie. Et en particulier du fait de la mise en contact de toutes les cultures les unes avec les autres, aussi bien en lien avec les phénomènes migratoires, qu'à travers les nouveaux médias, Internet, qui nous permettent de dialoguer avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde et dans une logique de quasi-instantanéité. Donc, à force de tout entendre et son contraire, eh bien, d'une part, on a moins de capacité à élaborer un sens de la vérité un peu solide, et d'autre part, on se trouve pris donc dans une atmosphère finalement très relativiste, hein, puisqu'on entend tout et son contraire, c'est sans doute qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de vérité stable. Et donc de ce point de vue-là, cette école philosophique de la pensée faible ne fait que refléter intellectuellement l'atmosphère commune dans laquelle nous sommes plongés. Donc nous avons à faire clairement à une situation qui est une situation de crise, c'est-à-dire quand on voit l'épuisement d'une certaine logique, c'est-à-dire en gros la modernité a fini de dévorer l'héritage qu'elle avait confisqué, et tel le fils prodigue, eh bien elle se retrouve sans rien. Quand on est au bout de ce processus, il y a crise. Mais en même temps, il ne faut pas sous-estimer les semences du verbe présentes dans cette crise. Sinon, nous n'arriverions qu'avec une foi ou un sens de l'homme, disons, qui se situerait dans un pur contraste avec ce que vit ce monde. Mais, enfin, disons-le clairement, par exemple, il est bon que les grandes idéologies se soient écroulées. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas aujourd'hui, hein, puisqu'on est aux prises avec des idéologies vertes, des idéologies gays, etc. Donc il y a aussi des idéologies aujourd'hui, mais elles n'agissent plus de la même manière parce qu'il s'agissait dans le passé d'idéologies de masse qui impliquaient véritablement une militance de masse. Donc les communistes, c'était 30% de la France dans l'après-guerre. Et d'ailleurs, l'Église catholique répondait quelquefois sur le même registre, parce qu'après tout, l'action catholique était un peu conçue comme une sorte de militance catholique appelée à faire contraste avec cette militance idéologique, par rapport à cette militance idéologique. Mais il est bon que les idéologies aient cessé et que l'homme retrouve une certaine humilité de sa raison. Enfin, il n'est pas capable, et il en fait l'expérience aujourd'hui, il n'est pas capable d'être l'auteur pur et dur de sa propre histoire, le reprogrammateur de son être. Il n'en est pas capable et quand il essaye de le faire, il s'autodétruit. De ce point de vue-là, le transhumanisme dont il était question hier me paraît assez significatif. C'est-à-dire qu'on a poussé à son paroxysme la prétention à refaire l'homme selon des canons technoscientifiques. Mais derrière cela, eh bien, il y a en fait une destruction de ce qui fait la spécificité de l'être humain. C'est-à-dire, par exemple, on ne fait plus la différence entre quelqu'un et quelque chose. C'est-à-dire, dans cette perspective-là, l'homme n'est qu'une chose qui fonctionne. Et donc, on va améliorer, potentialiser les fonctionnements de la chose humaine, mais on est incapable de rendre compte du fait que l'homme soit une personne, quelqu'un. Et qu'est-ce que ça veut dire, être une personne ? Et du coup, eh bien, il y aura les hommes repotentialisés et les chimpanzés. Mais ça n'est jamais que la reproduction d'une logique qu'on trouve déjà, par exemple, dans le nazisme. Dans le nazisme, on prétend reprogrammer l'homme du point de vue de la sélection génétique, en prenant les meilleurs, qui sont les Aryens, blonds aux yeux bleus. Hein. Et puis les autres, ils sont assimilés à des chimpanzés. Et ce sont, en l'occurrence, les Juifs. Et donc, finalement, on pourrait dire que le transhumanisme, ça n'est jamais qu'un néo-nazisme branché, quoi. Alors, quelques éléments, donc, à partir de cela, pour penser un humanisme aujourd'hui. Alors, précisément, à travers ce que je viens de vous dire, il y a cette grande question de la personne qui émerge. Or, la notion de personne, et c'est là qu'on voit qu'il y a du neuf et de l'ancien dans le processus auquel nous sommes appelés, la notion de personne, c'est une notion la réflexion sur la personne philosophique et théologique nous vient de la foi. Alors, ça ne veut pas dire que l'expérience de la personne soit réservée aux catholiques, parce qu'en fait, la personne, qu'est-ce que ça vient toucher ? Ça vient toucher la différence entre quelqu'un et quelque chose. Nous ne sommes pas seulement quelque chose, je suis quelqu'un. Je suis une personne. Ça vient rejoindre la capacité de dire « je » quand je m'affirme en tant que personne, ou de dire « tu » quand je m'adresse à toi en tant que personne. Réalités qui sont présentes dans toutes les langues et dans toutes les cultures. Mais il a fallu la foi chrétienne pour s'intéresser, d'un point de vue philosophique et théologique, à ce qu'il y avait dessous. Qu'est-ce qui fait et qui nous conduit à nouveau à la spécificité, à la profondeur de ce qu'est l'être humain en tant que mystère. Parce que quand on se pose la question « qui suis-je ? Qui es-tu ? » on essaye de trouver des éléments de réponse et en même temps on se rend bien compte qu'il s'agit d'un mystère. Et notre foi chrétienne, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit qu'en fait ce mystère s'éclaire à la lumière du Christ et trouve son accomplissement dans la vie éternelle. Souvenez-vous de ce beau verset dans l'Apocalypse où le vainqueur recevra un caillou blanc sur lequel est écrit un nom que nul ne connaît sinon celui qui le reçoit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, dans la vie éternelle, outre cette joie de contempler le Seigneur et son amour face à face, il y aura aussi la compréhension définitive de qui nous sommes. Parce que finalement, qui nous sommes, ça n'est pas d'abord accessible à notre propre capacité. En quelque sorte, on en poursuit la recherche au long de cette vie, mais comme la recherche et l'approfondissement d'un mystère. Mais la véritable clé, elle nous est donnée dans le « qui nous sommes pour Dieu ». Et quand Dieu nous dira en pleine lumière « qui nous sommes pour lui », alors nous comprendrons vraiment qui nous sommes. Et donc cette question du « qui sommes-nous ? Qui suis-je ? Qui es-tu ? » est une question qui est appelée à être au cœur de la réflexion anthropologique chrétienne face aux défis de ce temps. Parce que tous les processus que nous avons décrits, soit ceux qui concernent la modernité, soit ceux qui concernent l'entrée en postmodernité, sont des processus qui mettent en crise la notion même de personne. Dans la modernité, parce qu'on réduit l'homme justement à l'homme abstrait, celui que l'idéologie représente, et donc qui n'est plus que un cas de la définition universelle de l'être humain, mais qui perd son caractère d'unicité et de concrétude. Et puis dans la postmodernité, parce que le sujet faible, c'est justement un sujet qui perd le sens de sa propre identité personnelle et qui ne sait plus qui il est, parce qu'il ne sait plus ni d'où il vient, ni où il va, et qu'il manque des grands repères qui lui permettraient d'entrer dans la structuration progressive de son identité personnelle. Donc il y a une grande interrogation humaine qui trouve dans le projet de Dieu et dans le mystère du Christ sa lumière et qui demande à être approfondie. C'est le défi de ce que Monseigneur Jean Lafitte a appelé l'anthropologie filiale, se redécouvrir fils. Donc dans un beau livre, Le Christ, destin de l'homme, l'anthropologie filiale. Vous voyez, on a évoqué le fils prodigue qui, justement, est un fils qui, en même temps, profite de l'héritage parce qu'il est le fils, mais refuse, finalement, de se reconnaître fils. Et donc, il y a une redécouverte de cette filiation qui est nécessaire. Et puis, cette question du retour du religieux est sans doute appelée à être quelque chose d'important dans la réflexion aujourd'hui, parce qu'il s'agit de mouvements forts et profonds qui sont en train de se produire, et puis il s'agit d'un phénomène qui, en même temps, nous dit des choses très importantes sur la dimension religieuse de l'être humain, et en même temps, qui présente des aspects extrêmement chaotiques et confus de nos jours. Alors, le Concile Vatican II a... avec la déclaration Nostra Aetate sur les religions non chrétiennes, à essayer d'ouvrir la réflexion sur ce terrain-là. Depuis, il y a eu le développement de toutes sortes de théologies des religions au pluriel, mais qui se sont souvent développées au détriment de l'unicité du Christ et de l'Église. Or, il y a un certain nombre d'éléments qui souvent ont été mis entre parenthèses et qui sont sans doute fondamentaux pour comprendre cette dimension religieuse de l'être humain. En particulier, me semble-t-il, le message tout simple qu'on trouve dès l'Ancien Testament, qui est que l'homme est fondamentalement un adorateur, mais que la grande question, c'est de savoir qui il va adorer. Et il me semble d'ailleurs que même l'histoire des idéologies modernes est typique là-dessus. Les idéologies modernes prétendent finalement supprimer l'adoration, mais elles deviennent elles-mêmes religions de substitution, et donc lieu d'adoration, soit de l'idéologie en tant que telle comme vérité absolue, soit de ses pères fondateurs avec la dépouille de Lénine qu'on allait vénérer sur la place Rouge jusque récemment. Et les idéologies elles-mêmes donc montrent que l'homme ne peut pas vivre sans religion, c'est-à-dire en fait sans clé fondamentale du pourquoi de son existence et sans rapport avec l'absolu. Et donc la question qu'il y a derrière, c'est, oui, donc l'homme est un être religieux, l'homme est un adorateur, mais qui va-t-il adorer ? Va-t-il adorer le vrai Dieu ou va-t-il adorer de faux dieux ? Or, soit de faux dieux explicitement religieux, comme dans les polythéismes, soit de faux dieux qui ne disent plus leur nom, comme dans les sécularismes modernes et les idéologies. Ou éventuellement, comme le montre le récit du péché originel, finalement, prendre le fruit comme absolu, donc comme un faux dieu, c'est se prendre soi-même pour un faux dieu. Donc finalement, ça renvoie à la tentation pour l'homme de s'adorer lui-même, de se faire à lui-même, d'être à lui-même son propre Dieu. Alors, la question de l'adoration du vrai Dieu renvoie aussi aux conditions qui la rendent possible. L'homme peut-il conquérir le rapport à Dieu ou doit-il l'accueillir dans une logique de grâce ? Et nous le savons, cette grâce qui trouve son accomplissement dans le Christ. Et là aussi, la description du premier péché est claire là-dessus, puisque le fruit, on s'en saisit. Tandis que l'alliance avec Dieu, l'amitié avec Dieu, on la reçoit. Donc ce sont toutes ces questions-là qui sont qui ont besoin d'être à nouveau clarifiés et approfondis, à la fois pour pouvoir reconnaître ce qu'il y a de beau, de grand et de profond dans l'admiration religieuse de tout, dans l'aspiration religieuse de tout homme, et en même temps pour trouver les clés qui vont permettre à nouveau d'annoncer le Christ comme l'accomplissement de cette aspiration religieuse. Et donc aussi éventuellement la purification de toutes les idolâtries dans lesquelles nous tombons quand nous n'avons pas rencontré ce vrai Dieu qui se donne à nous dans le Christ. Un autre point qui me semble important dans la réflexion anthropologique à laquelle nous sommes appelés, c'est une meilleure connaissance de nos fragilités, de nos vulnérabilités. Ça a déjà été évoqué. Mais le fait que nous soyons passés du sujet fort au sujet faible, on peut le voir négativement comme une perte de confiance de l'homme à l'égard de lui-même, mais on peut le voir positivement aussi comme un nouveau réalisme, c'est-à-dire l'homme idéologique était plein d'illusions sur ses capacités à faire tout ce qu'il voulait. Et redécouvrir que nous sommes aussi des êtres blessés, des gens boiteux, et que le Seigneur vient nous rejoindre en tel que nous sommes, pour nous faire grandir en lui, eh bien, c'est un regard que nous avons souvent besoin de redécouvrir et que l'atmosphère dans laquelle nous sommes peut favoriser. Prenez en considération, par exemple, la grande sensibilité que peuvent avoir les hommes aujourd'hui à l'égard de tous les actes par lesquels certains se penchent sur la misère des autres. Le rayonnement qu'a eu une mère Teresa, mais d'une manière générale, on peut dire que tous les lieux qui sont des lieux de service des plus pauvres sont des lieux profondément reconnus par notre monde, parce que en fait, il sait bien que c'est de cela que nous avons besoin. Mais cela conduit aussi à un regard peut-être nouveau et plus profond, justement, dans la capacité d'accompagner les vulnérabilités, les blessures. Vous voyez, je pense que par exemple, tout le chaos qu'il y a aujourd'hui autour du problème de l'homosexualité reflète aussi une époque où l'homosexuel était considéré simplement comme un anormal et un déviant, et donc où le réflexe était de le repousser violemment. On se retrouve maintenant avec un retour de bâton qui exalte l'homosexualité comme une voie parmi d'autres et tout à fait normale, mais en profondeur, il y a à rechercher quelles sont les souffrances et les blessures de personnes qui, pour la plupart d'entre elles, n'ont pas choisi cette tendance et qui ont des besoins très spécifiques d'aide, d'accompagnement. Pour certains d'entre eux, de guérison, ça n'est pas possible pour tous non plus, mais il y a des propositions et des cheminements qui peuvent se faire et toute une réflexion chrétienne à l'égard d'un problème comme celui-là, comme aussi, par exemple, le problème qu'on a découvert du syndrome post-avortement et de toutes les propositions d'accompagnement qui peuvent être faites. Tout cela, c'est lié à une redécouverte de la fragilité humaine, de la souffrance humaine et de la capacité qu'a une approche chrétienne de l'homme d'honorer et d'accompagner et de guérir cette fragilité. Et puis, d'une manière générale, il y a beaucoup d'approfondissements anthropologiques qui peuvent se faire sur des questions de plus en plus fondamentales. J'évoquais l'homosexualité. Derrière, il y a la question de l'identité masculine et féminine. Mais voyez, pendant des siècles, ça a été vécu comme une évidence, le rapport homme-femme. La mise en cause de ce rapport nous oblige à nous demander qu'est-ce qui est vraiment en cause dans la différence homme-femme. Et là, il y a des lieux d'approfondissement possibles qui ont déjà commencé, puisque vous voyez, tout le travail du magistère de Jean-Paul II sur ce sujet-là a été très important pour lancer et approfondir cette question. Et puis, je voudrais vous dire donc en très brève conclusion que toute cette réflexion anthropologique ne peut pas tenir si elle n'est pas enracinée dans des communautés où en quelque sorte, cette anthropologie soit non pas seulement pensée, mais vécue. Parce que s'il n'y a pas des communautés, ça reste des spéculations vagues. Si on croit qu'on va résoudre la crise d'aujourd'hui par quelques cours d'anthropologie, et qu'ensuite les gens n'auront plus qu'à l'appliquer comme ils peuvent, on a bien tort. En réalité, le mystère de l'homme, c'est un mystère à expérimenter, et on ne peut l'expérimenter que dans les communautés qui nous rendent possible de le vivre. Et donc il n'y aura pas d'approfondissement anthropologique chrétien pour notre temps s'il n'y a pas des communautés chrétiennes capables de vivre ce sens de l'homme aimé et sauvé par Dieu, de l'homme qui redécouvre qui il est à la lumière du Christ, parce que c'est un processus concret, hein, celui de l'expérimentation, hein, qui nous permet de rebrancher justement aussi la réflexion au sens plus conceptuel, théologique et philosophique, à l'expérience vécue. Je m'arrête là, puisque j'ai déjà explosé les horaires. Et donc je vous demande pardon pour les minutes que je vous ai volées. Et j'espère que ces quelques réflexions vous donneront envie de creuser tout cela pour une fécondité à la fois dans votre propre vie et puis dans vos relations et dans tous les services que vous pouvez rendre à l'homme aujourd'hui.
Merci Père.